سلیل اگه مفرد
میگویش بود
چون فقط به اینش کش باره
باید خیلی بکنی قیام on va commencer. Donc, Ve'ela Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Donc, le sens simple. Donc, ce sont tous les Mishpatim, toutes les lois sociales. Vous savez, des Mishpatim, Rashi nous dit, notre Rashi, qu'il y a les Mishpatim, les Mitzvot, et les Chukim. Les Chukim, c'est Gzerat HaMeler, il n'y a pas de raison. Les Mitzvot, c'est des moments qu'il faut se rappeler en les vivant, à travers la mitzvah, des moments qu'il faut revivre. Et les Mishpatim, ce sont des lois que même si la Torah ne les aurait pas écrites, nous, on ne les aurait compris. Les Mishpatim, d'accord ? C'est comme ça que, donc ces Mishpatim-là, ce sont des lois sociales qui ont une raison, Asher Tassim Lifnehem, que tu placeras devant eux. Alors, je vais m'arrêter là, parce que ce pasouk-là, en réalité, il est à deux vitesses, à deux niveaux. Donc, le sens simple qu'on vient de dire, les Mishpatim de la Torah, Asher Tassim Lifnehem, que tu placeras, ceux-ci sont les Mishpatim que tu placeras devant eux. Qu'est-ce que Rashi dit que tu placeras devant eux? Rashi dit Asher Tassim Lifnehem, Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, les Moshe à Moshe. Lo ta'ale al datecha, l'omar, ne vienne pas à ton esprit de dire, Eshne la'em à Perek, je vais leur enseigner le chapitre, Veha alacha, ou la alacha, Shnaim o shlosha pe'amim, deux, trois fois, je vais leur enseigner, Hachete sedura befihem, jusqu'à ce qu'il ait appris par cœur, Kemishnata, comme le texte, qu'ils apprennent le texte par cœur, Ve'eni matria chatzmi le'avinam. Je n'ai pas besoin de me fatiguer à leur faire comprendre la raison et le sens de ce mishpat. Ils n'ont qu'à le comprendre par eux-mêmes. Et Tamé Adavar, la raison de cette chose-là, ou Pirusho et son explication. L'écart, c'est pour cela, Nehemar, il est dit, Rashi nous dit dans la Torah, Asher Tassim Lifnehem, que tu placeras devant eux. Comment? Rashi dit, Keshulchan Ha'arur ou Mukhan Lechol Lifne Ha'adam. Comme une table dressée, prêt à passer à la Seouda devant l'homme. Une table dressée, vous savez, une table dressée, il y a prêt à consommer, prêt à manger, il y a tous les kélim, il manque rien. Il manque les petits, il y a les petits ustensiles pour le poisson, il y a la petite fourchette, la grande, les deux verres, trois verres parfois, ça dépend. Et tout ce qui va être présenté, eh bien, c'est en fonction des kélim qu'il y a sur la table. Déjà, on peut comprendre, si on réfléchit, tout ce qui va être... On va manger une assiette creuse, une assiette plate, etc. Et donc, tous ces kélim-là, bien dressés, mis à leur place, parce que pas mis n'importe comment. Eh bien, je sache une chose, que tous les mishpatim, ils doivent être compris aussi bien que quelqu'un qui voit une table dressée et qui comprend chaque kéli à quoi il correspond. De même, chaque mishpat, l'homme, il doit comprendre à quoi il correspond. Et quelle est la raison et la signification profonde. D'accord ? Comme ça, Rashi nous dit. Ça, c'est le sens simple. On verra la suite du psukim un peu plus tard quand on aura développé. Alors, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, c'est une... la justice, les mishpatim, c'est de la justice par laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous propose des lois que nous-mêmes, on aurait compris pour pouvoir construire une société viable. C'est les mishpatim. D'accord ? Et là, si on veut réfléchir un petit peu sur les lois sociales laïques, oui, les lois sociales laïques et les lois sociales des Mishpatim divines, il y a une grande différence. Il y a un fossé entre les deux. C'est que toutes les lois sociales qui sont laïques, elles concernent la société. Elles concernent des personnes qui vivent en commun. Elles concernent au moins deux personnes, ne concerne pas une personne. Parce que, au niveau de l'individu, il n'y a aucune loi qui peut juger l'homme. Ce que je fais chez moi, ce que je fais dans mon intimité, c'est personnel, c'est privé et personne n'a à juger ce que je fais. Je peux me conduire comme je veux. Je n'ai pas à être jugé là-dessus. À partir de quand je suis jugé dans les lois laïques ? Je ne suis jugé qu'à partir du moment où ça concerne une autre personne. À partir d'une personne. Mais seul, moi, l'individu, je peux me conduire et me comporter d'une manière efker, la plus efker possible, la plus vulgaire possible. Ça ne concerne que moi. Les affaires privées se traitent en privé, comme dirait l'autre. D'accord ? Et c'est ça. On voit un paradoxe dans la justice laïque, on voit un paradoxe flagrant. C'est que on peut être une personne qui n'est pas du tout personne de confiance. Parce que quand on est marié, quand on est en couple même, quand on s'engage pour la vie, il y a une confiance qui doit régner. On peut être une personne qui n'a aucune confiance, aucune parole. Quelqu'un qui est incapable de s'engager, quelqu'un qui est incapable de diriger, de construire. Incapable au niveau individuel, eh bien, cette personne-là, elle n'est pas jugée là-dessus. Cette personne-là, on peut la considérer comme tout à fait capable de s'occuper, de gérer toutes les lois sociales et de diriger, de construire et de donner sa confiance à un pays entier. Eh bien, la contradiction qui est là. Ça, c'est la justice laïque. Laïque ne rentre pas dans le jugement de l'individu personnel, sauf quand il concerne une autre personne. D'accord ? Et s'il concerne que moi, je peux être un aval, une nevela, un grossier personnage, on ne me juge pas là-dessus. C'est pas là-dessus qu'on me juge. On me juge par rapport à mes relations avec les autres. Voilà la contradiction qu'il y a, terrible, dans la justice laïque. La justice divine, la justice de la Torah, elle n'est pas comme ça. La justice de la Torah, on nous dit, « Ele amishpatim asher tassim lifnehem. » Ces mishpatim-là, il faut les présenter, tous ces mishpatim, toutes les lois qu'Akash Bohu, il nous propose dans toutes les parashiot, dans toutes les mitzvot de la Torah, eh bien, elles sont faites pour être mises devant chacun d'entre nous personnellement. « Asher tassim lifnehem. » Comme chacun chez soi a sa table dressée, et ne va pas manger sur la table de l'autre, chacun a une table, chacun dresse sa table. Eh bien, chacun, justement, doit considérer les mishpatim comme sa propre table, personnelle et individuelle, privée. Et de la même manière qu'il va dresser sa table, il va aborder sa vie matérielle, parce que la table représente la vie matérielle, elle représente la achila, vous comprenez ? Eh bien, de la même manière, l'homme, il doit se comporter dans le niveau social. La même chose. Que ça soit devant sa table, chez lui, privé à la maison, ou que ça soit dans la rue, au travail, au Beit HaKnesset, de partout, quand il est au milieu d'une société. Vous comprenez ? Et c'est ça, Asher Tassim Lifnehem, c'est pour nous montrer aussi la différence qu'il y a, Rashi nous parle de chacun sa table dressée. Les Mishpatim d'Akadosh Baruch Hu doivent être comme une table dressée. Une table dressée, chacun a sa table dressée individuellement, en privé. Eh bien, les mishpatim d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Ils ne considèrent pas seulement la société et en public, mais ils concernent aussi chacun assis chez soi devant sa table. Comment est-ce qu'il aborde la vie matérielle ? Vous comprenez ? Et c'est ça que, au niveau du sens simple, c'est comme ça qu'on peut comprendre. Maintenant, il y a le Zohar, qui explique à travers beaucoup d'endroits dans la Parashat Mishpatim qu'il s'agit ici des Mishpate Hashem. Les Mishpatim et les jugements et les Onshim, les règlements de compte qu'Akadosh Baruch Hu envoie dans ce monde. Ce sont ces Mishpatim-là dont on parle ici. Comme l'Ankelos dit, Ve'ilen Dinaya. Voici les Dinim. Les Dinim, c'est le Din, c'est. On rend des comptes. Dites Sader Kadmeron que tu vas présenter devant eux. Il s'agirait d'après le Zohar. D'ailleurs, le Zohar, dans Parashat Mishpatim, il fait un volume entier. Ce qui n'est pas le cas pour les autres Parashat. Pour Parashat Mishpatim, c'est presque un volume entier, Parashat Mishpatim dans le Zohar. Et le Zohar, il dit, il s'agit ici des dinim, des onshim, des punitions, on va dire, des punitions, c'est pas une punition qu'Akadosh Baruch Hu envoie, c'est le résultat de nos actions. Tous les événements qu'Akadosh Baruch Hu envoie dans ce monde sont des mishpatim. Tous les événements qui nous entourent, les contrariétés, les angoisses, les échecs, les réussites, les maladies, la santé, tout ce qui se passe autour de nous, tous les événements qui se passent autour de nous, ce sont des mishpatim. Et vous allez comprendre pourquoi et comment. D'après le Zohar, il s'agit de ces mishpatim-là. Ce sont tous les mishpatim qui sont envoyés d'Akadosh Baruch Hu, les messages qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à travers des événements autour de nous. Eh bien, comment comprendre le Asher Tassim Lifneim maintenant ? Ces mishpatim qu'Akadosh Baruch Hu envoie, tous ces jugements qu'Akadosh Baruch Hu envoie pour nous juger, d'accord ? Si un homme il fait attention, il voit autour de lui, tout ce qui lui arrive, ce sont des messages qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie. Et seulement, on n'y comprend rien. On n'y comprend strictement rien. Alors, ici, on nous dit, le Zohar explique, « Asher tassim lifnehem », il faut que chacun d'entre nous puisse comprendre et percevoir quel est le message divin que Akadosh Baruch Hu nous envoie à travers ses jugements. « Asher tassim lifnehem », là aussi, il faut qu'il soit en face des yeux du juif pour qu'il puisse comprendre, tiens, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça ? Et pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça ? Et pourquoi à moi et pas à un autre ? Pourquoi lui oui et moi non ? Pourquoi est-ce que je suis angoissé ? Pourquoi je suis stressé ? Pourquoi je ne réussis pas ? Pourquoi je réussis ? Etc. Comprendre tous les messages que Akadosh Baruch Hu lui envoie. Asher tassim lifnehem, on a le devoir, les atricham, de nous fatiguer, les havinam, et d'essayer de comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Il y a des gens qui vivent, ils ne comprennent rien de ce qu'il y a autour d'eux. Ils ne comprennent strictement rien. C'est comme le fou dans un asile. Il regarde par la fenêtre, mais il se dit, il croit que tout le monde est fou. Parce qu'il ne comprend rien de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a personne dans la... À 1h du matin, il n'y a personne dans la rue. Ils sont fous. C'est où ils sont ? Que c'est des fous qui marchent seuls dans la rue à 1h du matin. Lui, il ne comprend... Parce que comme chez lui, ce n'est pas en ordre les choses, alors automatiquement, il s'imagine que tout le monde est fou. Dans l'esprit d'un fou, c'est tout à fait l'inverse qui se passe. Nous, on dit, oh, le pauvre, il est fou. Lui, il dit, mais les pauvres, ils sont tous fous. C'est bien ça qui se passe. Alors, nous avons le devoir de comprendre tout ce qui se passe autour de nous, et pas être comme un fou. On a l'obligation. C'est ça, Asher Tassim Lifneim. Tous les dinim qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, tous les mishpatim qu'il nous envoie, en vérité, c'est une manière de nous exprimer ce qu'il pense de nous et de nous prévenir comment nous nous comportons. Asher Tassim Lifneim, que tu placeras devant eux, c'est-à-dire que nous avons le devoir de comprendre. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de comprendre les mishpatim d'Akadosh Baruch Hu ? Ce que je vous dis, c'est le Zohar qui explique tout ça. Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre les mishpatim d'Akadosh Baruch Hu ? Ce qui nous empêche de comprendre, alors pour pouvoir répondre à cette question-là, sachez qu'il y a deux mots en hébreu qui ont le même mot, qui sont les mêmes, et qui signifient deux choses tout à fait différentes. En vérité, qui ne sont pas différentes. Le mot mishpat. En hébreu, comment on dit une phrase en hébreu ? Un mishpat. Une phrase avec un pronom, un sujet, un verbe, un complément d'objet, qualificatif, tout ce que vous voulez. D'accord ? Eh bien, ça s'appelle un mishpat. Un mishpat. Le même mot. Mem, shin, pe, tet. Un jugement, on dit aussi un mishpat. Un jugement s'appelle mishpat. Si les deux ont le même mot, c'est qu'ils doivent revenir au même, parce qu'ils ont le même sens. Alors, quel est le sens qu'il y a ? Quel est le rapport qu'il y a entre une phrase et un jugement ? Quel est le rapport entre les deux ? Vous avez, Rabotai, quand vous avez une phrase, vous avez plusieurs mots qui forment cette phrase. Si les mots sont mélangés et viennent n'importe comment, on pourra essayer de déchiffrer, on ne comprendra rien du tout. Jusqu'à ce que quelqu'un de très habile, peut-être, il arrivera à quelqu'un qui est fort au jeu des chiffres et des lettres, il va savoir mettre de l'ordre un peu, là c'est dans un mot, mais là c'est dans une phrase, mettre de l'ordre un peu dans ce texte et essayer de comprendre le sens de tous ces mots. Mais c'est très difficile s'ils sont... Et puis s'ils sont à peu près à leur place, mais les mots ne sont pas très bien choisis, alors on va un peu comprendre un petit peu, on va deviner un peu le sens, mais on ne le lit pas clairement. Jusqu'à ce que vous pouvez parfois obtenir une phrase bien construite, bien monté, avec les mots où il faut, chaque mot, et là vous comprenez la profondeur et le sens profond qu'on veut vous transmettre. Ça c'est la phrase. Il faut savoir, Rabotai, que les Mishpatim, c'est la même chose. Les Mishpatim, c'est l'expression d'Akadosh Baruch Hu. Il nous envoie des messages. Il nous envoie des événements tout autour de nous, pendant toute notre vie. Il y a un tas d'événements qui se produisent. Alors, on voit ça comme une phrase avec plein de mots, mais on ne sait pas les mettre en ordre. On ne sait pas les mettre en ordre. Qui peut mettre ces mots en ordre ? Celui qui a l'habitude, dans son propre comportement, dans sa propre vie, dans la phrase qui résume sa vie, il y met un sens, une signification, il sait où il va, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il a à faire, il réfléchit toujours dans son comportement en privé, il comprend exactement ce que signifie la vie, et il a une expression dans sa tête claire de la vie, cet homme-là, il est capable de percevoir le mishpat qu'Akadosh Baruch Hu envoie. Si son mishpat qui résume sa vie, si la phrase qui résume sa vie, elle est bien claire dans sa tête et dans son cœur, alors il a toutes les chances de comprendre très bien tous les mishpatim qu'Akadosh Baruch Hu envoie. C'est lié. Parce que l'un, c'est des événements qui sont pêle-mêle, d'accord ? Mais en vérité, pour quelqu'un qui a l'habitude dans sa vie à chaque fois de s'arrêter et se dire « Tiens, il m'arrive telle ou telle chose. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça ? Il m'arrive telle ou telle chose. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça ? Pourquoi est-ce que je suis angoissé aujourd'hui ? Je ne suis pas comme hier, bien, ça m'est. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai bien réussi alors qu'hier ça a mal marché ?» Et qui se pose toujours, qui se questionne toujours et qui essaie de donner un sens dans sa vie, celui-là, il va pouvoir comprendre, donc faire une phrase de sa vie, une phrase claire de sa vie, il va pouvoir comprendre tous les mishpatim que je vous recommande. C'est lié. Vous comprenez ? C'est pour cela que les deux ont le même mot, mishpat et mishpat. On dit bien, on pèse les mots. On pèse ces mots, n'est-ce pas ? C'est bien comme ça qu'on dit. On pèse ces mots, on réfléchit à ce qu'on dit, on pèse ces mots. Donc on voit qu'il y a dans une phrase, il y a un problème d'équilibre. Il y a un problème d'équilibre. Dans le mishpat aussi, c'est représenté par une balance. Donc on voit que le mishpat, c'est aussi un problème d'équilibre. Si ma vie, à moi, elle est bien équilibrée, alors je peux comprendre et peser tous les événements et comprendre le message. Si ma vie, à moi, elle est complètement... C'est n'importe quoi, c'est complètement efker. Je cherche uniquement mon intérêt, l'oseille, les kavod et tout ce que vous voulez. C'est ça ma vie, c'est le sens que je donne à ma vie. Alors, c'est pas clair parce que je vais être en contradiction plusieurs fois avec mes idées, mes convictions. Je vais sans arrêt aller contre ma propre logique. Donc, je vais pas avoir de phrases claires dans ma vie. De même, je ne pourrai pas comprendre ce qui m'entoure. C'est lié. C'est ça. Elea Mishpatim, dit le Zohar, Asher Tassim Lifnehem. Si l'homme, dans son comportement privé, personnel, en privé justement, il a un comportement d'homme de confiance, un homme de mérite, un homme de perfection, à ce moment-là, il pourra dire « Elle est à Mishpatim ». Voici tous ces Mishpatim, je les comprends et je sais pourquoi il m'arrive telle ou telle chose. Mais si l'homme dans sa vie, c'est brouillon, sa vie, il n'arrive pas à la résumer, il n'arrive pas à exprimer sa vie, à trouver un sens et une signification dans sa vie, alors il ne pourra absolument rien comprendre de ce qui se passe autour de lui. Et c'est pour ça, les tzadikim, Rabotai, ils savent tout de suite tel événement c'est quoi et tel événement c'est quoi. C'est pour ça. Parce que vous avez le mot tzadik, vous avez le mot tzedek, vous avez le mot justice. Vous comprenez ? Donc c'est lié. C'est lié. Contrairement au mishpatim laïque, que le comportement privé n'a absolument rien à voir avec les lois, d'accord ? Eh bien, on ne fait pas cas du tout comment une personne se comporte. On voit comment il se comporte dans la société, avec son voisin, partout ailleurs. Mais chez lui, il peut se conduire comme il veut. Dans la Torah, c'est tout à fait l'inverse. Si tu veux comprendre les Mishpatim, tu n'as qu'une seule manière de pouvoir les comprendre, si tu arrives à, chez toi-même, dans ton propre comportement, te comprendre, comprendre ta propre vie à toi. Voilà. Comprenez ? C'est ce que le Zohar nous dit. Nous dit par la suite. Le Zohar nous dit que Im Kesef Tave et Ami. Im Kesef Tave et Ami était un Inmar. Regardez. C'est où se passe le problème. Voilà. Im kesef talve et ami. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, d'accord, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, et que le pauvre est avec toi, d'accord, l'oti et l'okenoché, ne sois pas, on ne comprend pas ce qui est et animar. Ça veut dire, et le pauvre est avec toi. Si tu prêtes, tu prêtes forcément quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'argent. Quelqu'un qui n'a pas besoin, tu ne demandes pas d'argent. Donc il est forcément animar. L'oti et l'okenoché, tu ne dois pas pratiquer l'usure. C'est-à-dire, tu ne dois pas essayer de venir à chaque fois et le persécuter en lui demandant quand tu sais très bien qu'il n'a pas de quoi te rendre cet argent. D'accord ? L'oti et l'okenoché. L'oti simona l'avnécher et tu ne prendras pas d'intérêt. Tu passes un pas sur lui, tu ne le mordras pas. D'accord ? Ce pasouk-là, le Zohar, comment il explique, Rabotai ? Im kesef talvetami. Il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui va être malvé. Ami, c'est mon peuple. Mon peuple, quand Akadosh Baruch Hu dit ami, c'est le peuple que j'aime. Quand il n'aime pas, il dit Ha'amazé ou Amecha, il dit à Moshe. C'est ton peuple, c'est pas le mien, c'est ton peuple. Regarde ce qu'il fait ton peuple. L'air raide qui chirette Amecha. D'accord ? C'est ton peuple, c'est pas le mien. Mais quand il dit ami, c'est qu'il aime. Et à quel jour, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous prête la vie. Il nous donne une neshama, il nous prête la vie. Mais c'est un prêt. C'est un prêt. C'est une alva'a. Vous savez ce que c'est une alva'a, Rabotai ? Une alva'a, c'est pas comme une she'ela. Il y a une différence entre une alva'a et une she'ela. Quelle différence il y a entre une alva'a et une she'ela ? Une alva'a, la Gemara dit, les hotza'a nitna. Quand quelqu'un y prête alva'a, un prêt, d'accord, c'est fait pour investir. C'est fait pour dépenser, pour que la personne elle puisse gagner un peu d'argent et démarrer dans la vie où on emprunte de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. D'accord ? C'est un prêt pour investir. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne la vie, il nous donne une neshama, il nous donne un capital, il nous donne une énergie. D'accord ? Et il nous dit avec tout ça, c'est à toi. Dépense-le. C'est-à-dire que, à Kadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on le rende tel quel. Il veut qu'on le sublime. Il veut quand on rend l'argent, on ne rend pas l'argent qu'il nous a prêté. On rend notre argent. Chez Ella, par exemple, je vous prête ce Kelly. Je te le prête et tu me rends le Kelly. C'est comme ça que ça marche. Tu me rends le même Kelly. C'est pas que tu vas investir le Kelly et tu vas me donner la contre-valeur en argent de ce Kelly. Non. Chez Ella, je te prête un Kelly, tu me rends ce Kelly. Quand je fais une Alva'a, c'est les Hotsa'a. C'est fait pour investir. Et la Torah nous dit Im Kesef Talve et Ami. C'est pas si, c'est lorsque ici. Le Im, c'est lorsque. Im Kesef Talve et Ami. Lorsque Akadosh Baruch Hu sera malvé son peuple, cet ami, mon peuple, d'accord ? C'est-à-dire que je vais lui donner tout ce capital, toute cette énergie, eh bien je lui demande qu'il investisse quelque part. Je ne veux pas qu'il me rende tel quel que je lui ai donné. Il nous donne un monde extraordinaire, on est là pour le sublimer, pour le transcender, pour l'élever, pour le changer complètement. Donc c'est une alva'a, c'est pour investir dedans. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu nous donne ça, il est prêt à nous le laisser, pas nous le réclamer, pas jouer à l'usure. Je te le laisse, profites-en, c'est à toi. Vas-y, enrichis-toi avec ça, grandis avec ça. À condition, et animar. À condition que toi-même, tu puisses te comporter comme moi je me comporte avec toi. C'est-à-dire que lorsque tu vois quelqu'un vraiment qui est dans le besoin, eh bien toi aussi, comme moi, je t'ai donné un capital pour pouvoir grandir et investir et pour te construire, eh bien sache que celui-là aussi. Là aussi. Ça dépendra justement, c'est lié. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu te donne, c'est pour ça que c'est marqué Belachon, Im, pas Ka'asher, Im. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu est prêt à te donner un capital, une énergie, une force, la santé, la réussite? Je te fais alva'a tout ça. Et tu me le rends, attention, tout doit me revenir. Tout doit me revenir. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans ce monde-là, dans le monde matériel, je dois l'orienter vers Akadosh Baruch Hu, évidemment. Vous comprenez ? Même quand je fais les choses les plus matérielles, les plus banales dans ce monde, en vérité, quand je le fais avec une bonne bracha, avec la kavana, avec laquelle Akadosh Baruch Hu veut que je le fasse, c'est comme si je le prends et je lui rends à lui, ce que j'utilise pour lui. Vous comprenez ? Donc c'est un investissement que je fais et que je rends à Kadosh Baruch Hu. Je suis prêt à me conduire comme ça avec toi si était Anima. Si tu fais la même chose avec le Ani. Donc on voit Rabotai que le jugement, le Mishpat, le Zohar explique comme ça. Le Zohar, pas moi. Hein. Le Mishpat d'Akadosh Baruch Hu dépend de mon comportement. Voilà. Je ne peux pas être un homme de confiance, un homme qui construit, un homme qui rayonne en société et être un porc en privé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Akadosh Baruch Hu nous dit, attention, tout ce capital est pour toi à condition que tu te conduis comme moi, qu'à ton tour, tu prends signe. Oui.
Un parallèle la même chose avec le pardon. Bon, Dieu dit que je te pardonne, pardonne à ton prochain parce qu'il y a une obligation. Est-ce une obligation pour Israël de prêter? Parce qu'on sait que c'est une obligation de ne pas lui demander. Quand on prête à quelqu'un, il ne faut pas lui demander.
C'est ça qu'on a dit. L'autre est l'okenoché.
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on doit ou on peut prêter?
C'est une obligation.
C'est une obligation.
Bien sûr, bien sûr. Celui qui a les moyens d'aider l'autre.
Bien sûr, il a les moyens de prêter.
Bien sûr, c'est une obligation. Im kesef talvei et ami, im kesef, c'est marqué im, c'est dans la chaune si. D'accord? Bien sûr que au Bedin, on ne peut pas m'attaquer si j'ai refusé. On ne pourra pas m'attaquer au Bedin, comme si j'ai volé, comme j'ai une obligation de ne pas toucher ce qui ne m'appartient pas. Ce n'est pas la même obligation de prêter que là, on peut m'attaquer au Bedin. Là, on ne peut pas m'attaquer au Bedin. Tu as de l'argent, tu ne prêtes pas, viens au Bedin. Non. D'accord? Mais il faut savoir, là, ici, le joueur nous dit clairement, il faut savoir que mon comportement que je vais avoir envers ce Ani, c'est ça qui va déterminer la halva que je vais avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, avec Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? C'est énorme. On voit comment c'est lié, le comportement intime de la personne, chez lui, en ce qui le concerne lui, est lié avec le jugement d'Akadosh Baruch Hu. C'est lié. Et c'est ça. « Ve'ele amishpatim asher tassim lifneem, asher tassim lifneem. » Les Mishpatim, le Zohar explique ça par tous les dinim, tous les événements qui sont en vérité autour de l'homme, qui arrivent à l'homme, ce sont des Mishpatim. La meilleure manière de les comprendre, si moi-même, c'est uniquement si moi-même, je sais me comporter dignement et je suis un homme de mérite qui cherche toujours à me parfaire de plus en plus. Là, je peux comprendre ce qui arrive, ce qui m'arrive dans la vie. Sinon, je ne peux pas comprendre. Vous comprenez? Comment ça se passe? Je vais vous donner un exemple. Pourquoi je vous ai dit une fois? Comment les choses se passent? Je vous donne un exemple concret. Simple, mais concret. J'ai volé une graine. J'ai volé des graines. J'ai mis un dans un sac et j'ai rempli un sac et je suis allé pour semer chez moi. J'ai volé. Je sème. Est-ce que ça devrait pousser ou ça ne devrait pas pousser?
Logiquement, oui. Ça pousse.
Alors regardez comment ça se passe. Je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau du Mishpat, la Kadosh Baruch Hu. Si moi je suis un homme, vous allez comprendre, c'est exactement ça. Si moi je suis un homme qui n'a pas l'habitude de faire ça, un homme qui se questionne toujours, un homme qui se remet toujours en question, un homme qui essaye toujours de bien faire, et puis une fois, il n'existe pas un tzaddik qui n'a pas fauté. Il n'existe pas. D'accord, l'homme qui dit qu'un tzaddik qui n'a jamais fauté, bon, il y en a quelques-uns, mais uniquement... Ils ne sont pas morts par la faute d'Adam Arishon. Il n'y avait aucune faute. Mais c'est un sur des milliards. Et des milliards, et des milliards, et des milliards. Mais donc, il n'existe pas un tzaddik baharet asher lo yecheta. Il n'existe pas un seul tzaddik qui ne faute pas. Donc, si c'est un homme qui a l'habitude de faire attention à ce qu'il fait, et une fois il a failli, qu'est-ce qui va se passer au niveau du mishpat d'Akadosh Baruch Hu? Cette graine va pourrir dans la terre, elle va s'écraser, elle va disparaître et rien ne va pousser. Et là, quand cet homme-là va se poser la question, comme il a l'habitude de se remettre en question, il va se dire, mais bien sûr, voilà, c'est direct. Il va tout de suite comprendre ce qui lui arrive. Il va se dire, si ça n'a pas poussé, c'est parce que je l'ai volé. Il va tout de suite comprendre ce qui se passe. Vous comprenez? Il ne va pas dire, tiens, c'est bizarre, hein, qu'est-ce qui m'est arrivé, je comprends rien. Je comprends rien, qu'est-ce qui m'arrive, moi? C'est pas juste, j'ai semé. Il ne va pas se dire tout ça. Il va se dire, j'ai volé, ça n'a pas poussé. C'est clair, pour lui c'est évident. Il va comprendre l'événement de sa vie. Vous avez d'autres personnes qui ont un peu moins l'habitude, qui faillit beaucoup plus souvent. D'accord ? Mais pas un mauvais encore. Celui-là, sa graine, elle va pousser. Ça va pousser. Ça va donner. quelque chose, ça va donner des fruits. Il va venir la grêle ou la pluie qui va lui massacrer tout ça. Pendant un moment, l'homme, il s'y croyait, quoi. Il croyait, voilà, la réussite arrive, j'ai volé, ça a poussé, les fruits sont là. Ah. Très bien, tout va bien. C'est l'erreur de l'homme. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais dans quelques temps, il va venir une grêle ou une pluie qui va lui massacrer toute cette récolte. Et là, il va finir enfin par comprendre que, voilà. Vous avez des gens qui se questionnent encore moins, qui faillissent encore beaucoup plus, qui sont beaucoup plus tranquilles que ces deux premiers. Celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même récolter la bataille. Il va mettre tout dans son camion, il va dire, regarde, j'ai réussi. D'accord? Mais il se fait un film, celui-là. Il ne comprend rien de ce qui lui arrive. Parce que le camion, il va rouler tellement vite qu'il va se rouler par terre, et tout va se renverser, et tout va pourrir. Et tout va se perdre. Il va mettre tout dans un bateau, le bateau va couler. Et là seulement, il aura vécu pendant longtemps avec l'espoir en disant « Ouais, c'est bon, je suis bien. » Et puis en fin de compte, il va se rendre compte que voilà. Mais ça sera beaucoup plus tard. D'accord ? Vous avez d'autres personnes qui se questionnent encore beaucoup moins et qui ont l'habitude de faillir, mais vraiment très souvent, ils vont s'enrichir, ils vont pouvoir vendre tout ça. Mais extraordinaire. Quelle réussite, quelle gloire, quel rayonnement. J'ai réussi, j'ai volé, ça a poussé et j'ai réussi. N'est-ce pas? C'est ça qui va se passer. Eh bien, ce qui va se passer, tout son argent, elle va fondre, il va se demander comment et pourquoi. Il va rien comprendre. Et seulement là, ça peut être bataille. Parfois des années, puis des années et des années plus tard, que l'homme, il va vivre dans ce... Il va rien comprendre de ce qui lui arrive autour de lui. En vérité, il est en train de monter et s'enrichir pour mieux tomber. Vous voyez, l'autre a compris tout de suite. L'autre qui était toujours, il comprend. L'autre qui est toujours en questionnement et qui essaye toujours de faire bien les choses. Et il a failli sur une chose. Tout de suite, dès qu'il va lui arriver le moindre et petit événement, il va tout de suite comprendre d'où ça vient. Il ne va pas se leurrer toute sa vie dans le mensonge. Et vous avez celui qui ne regarde rien, qui vit efker. Celui-là, il va passer une vie dans le mensonge. Et le Zohar nous dit parfois, il va peut-être passer plusieurs Gilgoulim jusqu'à ce qu'il comprenne. Mais en tous les cas, ce que nous avons compris, nous, c'est qu'une graine volée ne pousse jamais. Elle ne pousse jamais. Même s'il a eu l'illusion que ça a poussé et qu'il a gagné, elle ne pousse jamais. Vous voyez? C'est ça les Mishpatim d'Akadosh Baruch Hu. Asher Tassim Lifnehem. Il faut bien savoir que l'homme, si il lui arrive des mishpatim dans sa vie, des événements, c'est parce que, justement, il n'a pas bien placé en face de ses yeux ce qui lui arrive. Si seulement il savait un petit peu lire et réfléchir, il comprendrait ça. C'est ça, Hachem Tassim Lifnehem. Vous voyez, le Zohar, il comprend ça au niveau Mishpeté Hachem, les dinim, les onshim, et les règlements de compte ne peuvent être perçus et compris que si l'homme, personnellement, arrive à mener sa vie et se comporter dignement. Là, il a une chance de comprendre ce qui lui arrive. Regarde, je crois qu'il ne marche pas la prise là. Ça se fait en tout cas. Oui, c'est bon. En principe, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ignore, je crois pas. Mais essayez d'autres. Essayez d'autres. C'est comme ça le direct. Hein. C'est drôle qu'elle marche pas celle-là. Ben non, je vois qu'en fin de compte. Non, ça continue à clignoter. Regarde s'il est bien. Bon, ben, allez, c'est pas mal. On continue. Je vais vous poser une petite question. Vous allez voir, on va comprendre un peu mieux les choses. Comment ça se passe au niveau de la structure d'un Neshama. On a vu un pasouk dans Parshat Béchalar. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. Hein, parce que c'est quand même assez étonnant. On lit et on ne se pose pas la question. On ne fait pas la remarque. Il est dit, juste après la traversée de Yam Souf, c'est marqué, voyez, page 164. Page 164, il est dit Vayomer, Ushamoa Tishma, l'école Hashem Elokecha. Si tu écoutes la voix d'Hashem Elokecha, Vayashar Be'enav Ta'ase, et la droiture à ses yeux, tu feras. Vayazanta les mitzvot, et tu écouteras ces mitzvot. Vayashamarta kol chuka, et tu garderas tous les chukim, tous les décrets. Kol amachala asher samti be'mitzrayim, lo asim alecha. Eh bien, toutes les maladies que j'ai mis sur l'Égypte, bien je ne les mettrai pas sur toi. Pourquoi? Ki ani Hashem rofecha, parce que je suis Dieu, ton guérisseur, ton médecin. Je suis ton médecin, je m'occupe de toi, de te guérir de toutes les maladies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que depuis quand le fait d'être shomea Torah ou mitzvot, de suivre et d'appliquer scrupuleusement Torah mitzvot, est-ce que ça signifie qu'on est en bonne santé? Pourquoi on ne connaît pas des gens scrupuleux dans la Torah mitzvot qui n'étaient pas en bonne santé? Pourtant la Torah nous dit clairement noir sur blanc. Tu suis Torah mitzvot, ça c'est une chose. Tu seras toujours. Tu n'auras pas besoin. Il n'y a pas besoin de médecin. Si Dieu ne met pas de maladie, pas besoin de médecin. Non, je vous ai dit, je ferai en sorte. Le meilleur des médecins, c'est celui qui est capable d'éviter les maladies. C'est ça le meilleur médecin. D'ailleurs, le Rambam, un jour, le roi lui a dit, mais pourquoi je te paye? Je suis jamais malade. Jamais malade. Tu me prends mon argent, tu me coûtes cher même. Et je suis jamais malade. Il a dit, c'est ça. Mais le bon médecin, c'est ça. C'est celui qui est capable d'éviter de tomber malade. C'est pas celui qui vient repêcher après. Ça, c'est un mauvais médecin. D'accord?